Carnet de campagne, bonjour. Toujours dans le Tarn, qui est certainement le département qui suscite le plus grand nombre d'appels, d'aide à la reprise et de coups de pouce depuis la naissance des carnets. Alors cette fois-ci, c'est Gilles, créateur d'un restaurant à ressources bio locales et plutôt végétarienne à Moissac, qui cherche une personne ou un collectif pour continuer l'aventure qu'il a entreprise il y a 3 ans sous le nom de Le Pigeonnier de Moissac. Le Pigeonnier fait référence au bâtiment et non à ce qui serait servi dans les assiettes. Pour information sur le site de TripAdvisor, ça se fait une drôle de pub, TripAdvisor, le restaurant est classé 3e sur 27, sur les 27 de la ville et approche les 80% d'excellence. Il y a une adresse électronique si vous voulez entrer en correspondance avec son responsable, pigeonniermoissac@gmail.com. Je tiens d'ailleurs à la disposition de tous les intéressés le téléphone direct de Gilles. Cette édition est une bonne occasion pour parler des familles rurales. Les familles rurales correspondent à une association reconnue d'utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire rural et périurbain, et celle du Tarn Nord-Ouest a multiplié les initiatives pour lier, faire rencontrer nouveaux venus et natifs du lieu. Catherine Buisson, coordinatrice, va répondre à nos questions. Et puis ensuite, nous ouvrirons la première page d'un dossier qui paraît aujourd'hui dans l'hebdomadaire La Vie sous le titre « L'économie du partage » avec notre confrère Laurent Gibowski.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Catherine Buisson, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre courrier, Catherine. Vous êtes coordinatrice de l'association Famille Rurale du Causse, dans le nord-ouest du Tarn, à Vaour et Penne. Mais j'oublie encore 2 autres communes, parce que vous êtes sur un petit territoire de 4 villages.
Oui, tout à fait. Il y a également Rousserolles et Saint-Michel-de-Vax.
Et le total donne 1000 habitants.
C'est ça.
On vit de quoi dans ce beau petit territoire des Causses?
On vit de quoi? La part de l'agriculture est toujours importante, avec beaucoup d'élevage et du maraîchage. Il y a aussi beaucoup d'artisanat, de transformation de produits locaux, mais également de maçonnerie. Il y a tous les corps de métier du bâtiment. Et puis évidemment, une partie des personnes qui travaillent en ville, puisqu'on n'est pas très loin d'Albi, de Gaillac, de Montauban. Et puis il y a une part de précaire, avec un taux de chômage qui est assez élevé.
Et en particulier féminin.
Tout à fait. Je pense que sur Vaour, on est autour de 25% de chômage féminin. Donc c'est un phénomène vraiment important pour nous. Oui.
Sauf que là, en ce moment, vous profitez ou vous bénéficiez d'un nouveau vent. On en parle depuis de nombreuses années dans les carnets de campagne. Après l'exode rural, c'est l'exode urbain, autrement dit. Des personnes quittent la ville pour revoir leur mode de vie, leur logement, le cadre de vie, les métiers parfois, les professions, les engagements professionnels. Et vous, vous en profitez en ce moment?
Tout à fait. Ben, en fait, on a des choses à inventer. Ces nouvelles populations apportent des nouvelles compétences, des nouvelles ressources. Mais il ne faut pas oublier également celles qui étaient déjà présentes ici auparavant. Donc il faut que la mayonnaise prenne. Et nous, le but de notre association, c'est d'essayer de faire le lien.
Et alors, vous le faites par l'intermédiaire de friperies associatives. Vous avez ouvert 3 friperies.
Oui. Alors, la friperie, ce sont des lieux un peu magiques, parce qu'autour du vêtement, on se rencontre, on prend du temps. Bon, il y a évidemment la promotion du recyclé, mais en circuit super court, puisque tous les dons de vêtements, ils sont effectués sur le territoire. Mais il y a aussi tout l'aspect chaleureux, boire un petit café, discuter, s'échanger des nouvelles. Et puis il y a aussi un aspect très important dans ces friperies, c'est l'implication des bénévoles, puisqu'elles fonctionnent vraiment grâce à des équipes très motivées et assidues.
Ouais. Et la vraie question que vous posez, Catherine, c'est comment générer de l'autofinancement tout en créant du lien entre les nouveaux venus et les natifs de ce territoire, mais avec 0 centime.
Pas 0 centime maintenant, parce qu'on a un financement de la Caisse des allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole.
Oui.
Les partenaires essentiels du monde associatif, ce sont souvent les collectivités locales, donc elles nous soutiennent bien sûr, mais comme nous sommes en zone rurale, les dotations sont très faibles. Donc pour créer de l'activité, il faut sortir un peu des sentiers battus et essayer de trouver des pistes d'autofinancement pour pouvoir être libre de construire.
Oui. Alors pour créer une activité, ça j'entends, on peut se débrouiller, mais ensuite vous avez le projet de créer des emplois. Là c'est une autre dimension.
Oui, au fil des années, on est parvenu à créer 3 postes en mi-temps pour l'instant. On parvient à en financer 2 façon pérenne. Le troisième, c'est en construction parce que nous avons un nouveau projet qui se situera dans l'ancienne gendarmerie d'un des villages de Vaour. Il y aura une maison de service au public, une poste, les médecins, d'autres soignants également, et la DMR. Et nous, on aimerait vraiment y monter un espace chaleureux, un salon de thé, pour proposer un petit temps sympa autour de la nourriture, parce que ça, c'est les bons petits plats, c'est aussi une spécialité de l'association.
Oui.
Et la valorisation des produits locaux également. Donc voilà, ça c'est un nouveau projet pour essayer de trouver des pistes pour ce troisième petit poste qu'on souhaite créer sur le territoire.
Le lien, c'est facilement créé entre les nouveaux venus et les personnes originaires du territoire.
Facilement n'est pas l'adverbe que je choisirais. Donc je pense que nous, ce qu'on a constaté de plus concluant, je dirais, c'est qu'en faisant ensemble, c'est vraiment le moyen idéal pour que les gens se rencontrent. Mmh. On organise une presse de jus de pomme une fois par an au mois d'octobre. On organise aussi des grandes fêtes. On crée des décors. Enfin, il y a beaucoup d'activités comme ça qui nous permettent de réunir des personnes. Mmh. Et c'est surtout comme ça, je trouve, qu'on parvient à tisser ce lien au fil du temps.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Catherine. Le site, alors c'est celui des familles rurales, hein, familles-rurales.org, et vous allez avoir donc à familles-rurales.org le prolongement avec l'association du COS, dont la coordinatrice est Catherine. Merci Catherine, bonne journée.
Merci beaucoup à vous.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
La filière bois a une place de choix dans le département du Tarn, à l'image du lycée forestier André Alquier de Saint-Amand-Soult à 8 km de Mazamet. Ce dernier présente la particularité d'ailleurs de mélanger des étudiants en BTS gestion forestière, des apprentis d'entreprise et des personnes en reconversion. Roselyne annonce une animation particulière le mercredi 10 janvier organisée par un groupe d'étudiants qui comprend un déjeuner sur le thème « Le bonheur est dans l'assiette et la forêt » suivi de ses en animation sur le parc naturel régional du Haut-Languedoc, avec des démonstrations aussi de travail du bois. Le site c'est lycéeandréalquier.fr, ça vous intéresse pour connaître aussi cette filière de formation. Très originale aussi est la démarche entreprise par 5 jeunes femmes autour des métiers du bois dans la vallée du Toré et de la Montagne Noire, par la création d'un journal baptisé Philo, F-I-L-O-H, sous-entendu « Regard au fil du Toré », de parution très irrégulomadaire, comme l'écrit Pierre Éloi. Merci pour le néologisme. Le magazine en ligne est une mine de reportages et de portraits de professionnels passionnés par la biodiversité et la forêt. Le site, c'est donc Philo, F-I-L-O-H.fr. Laurent Gibowski, bonjour.
Bonjour.
Laurent, notre confrère, ami du magazine Hebdo La Vie, pour un dossier partagé, ça tombe bien, puisqu'il s'intitule « La révolution du partage ». Il va porter sur toute cette mise en commun qu'on trouve dans notre société, un savoir-faire solidaire. Et on commence avec un exemple que l'on connaît bien dans les carnets, qui est l'habitat partagé du village vertical de Villeurbanne.
Oui, le village vertical de Villeurbanne. Imaginez, Philippe, un immeuble collectif qui comprend 14 logements basse consommation, dont 3 pour des jeunes en réinsertion sociale, avec aussi des couples et des familles, des espaces collectifs, une lingerie, une salle de jeu pour les enfants, des chambres d'amis, une cuisine commune et surtout, c'est ça qui est très intéressant, un système de location qui est fondé sur l'adhésion à une coopérative qui encaisse les loyers et qui assume le rôle de syndic. Dans cet immeuble pas comme les autres, chacun est libre de partir et de vendre ses parts de coopérateur à son successeur sans encaisser de plus-value. Donc c'est très intéressant parce que ce village participatif, c'est aussi une certaine manière d'être ensemble qui engage les gens les uns avec les autres sans être une communauté, parce que chacun garde son indépendance, mais avec la volonté d'un vivre ensemble autrement, et qui d'ailleurs déteint dans tout le quartier. J'ai longuement parlé avec Cécile Cubisol, et elle me disait combien cette expérience d'un immeuble déteignait sur l'ensemble du quartier et de la cité.
Et Cécile est en ligne avec nous. Merci Laurent, à demain. Cécile, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors Cécile, on vient de parler avec Laurent de ce village vertical que l'on connaît, initié en 2005, concrétisé en juin 2013, qui est vraiment la première coopérative d'habitants créée en France dans ce nouveau siècle, primée à Berlin en octobre dernier, le prix européen de l'habitat collaboratif, c'est le premier d'ailleurs de ce genre pour une coopérative française. Être coopératrice du village, ça signifie quoi ?
ça signifie habiter dans un immeuble qui vit, qui est ouvert, qui avec plein d'échanges, plein de cris d'enfants, mais pas trop bruyants, hein, ça va. Ça signifie aussi, oui, beaucoup de d'échanges avec les voisins, d'échanges de services, échanges de nouvelles aussi. C'est quelque chose d'important. Service parce que on a des âges très différents et des modes de vie très différents et du coup. Parfois, ça peut être intéressant pour l'un de, eh bien, je vais au marché, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou cet après-midi, est-ce que tu peux garder mes enfants? Voilà, ce genre de choses. Ça a du sens aussi pour faire des groupements d'achat, par exemple.
Oui.
On a la bicyclette que vous devez connaître, d'ailleurs, qui fabrique du très, très bon pain bio.
Ah oui.
Qui nous livre chaque semaine.
Oui, on en avait parlé dans les carnets. Ouais.
Voilà. Et puis en plus, là, aujourd'hui, ce que je trouve d'extrêmement intéressant, c'est que ça... Il y a une espèce de virus dans le quartier, donc il y a plein de gens qui ont des envies, il y a un compost au niveau du quartier qui s'installe, et puis plein d'idées, plein d'initiatives, un état d'esprit en fait,
ouais.
D'entraide et d'ouverture, et pas de repli sur soi.
Ouais. Alors être coopérateur ou coopératrice comme vous, Cécile, ça implique de verser tous les mois une redevance?
Oui, c'est ça. En fait, le principe de base, c'est la propriété collective. Donc, moi, comme mes 15 autres associés de la SAS coopérative Le Village Vertical, nous versons une redevance qui est composée d'une partie loyer qui couvre le remboursement du prêt que la SAS a octroyé auprès d'une banque.
Mmh.
Et un montant en compte courant qui est un espèce de d'épargne, de provision pour des imprévus. Ça, c'est notre mode d'assurance pour l'avenir. Au cas où, par exemple, un logement serait vide pendant des mois, ce qui n'est jamais arrivé et qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais bon, on ne sait jamais.
Oui.
Et puis, dans cette redevance, la troisième partie, ce sont les charges qui sont liées en partie à nos espaces privés, c'est-à-dire nos appartements, mais aussi aux espaces communs qui sont la salle commune, la buanderie, les chambres d'amis. Qu'on se partage.
Ouais. Et le village lui-même, sur le bâtiment, est un bâtiment éco-construit.
Dans la mesure du possible, oui. On a fait au maximum de ce que l'on pouvait faire avec des acteurs classiques du BTP, c'est-à-dire qui n'ont pas la logique du bâtiment écologique, mais plus la logique du bâtiment économique. Donc, on va au moins cher, mais grâce à l'appui, au soutien du promoteur et des architectes, on a réussi à avoir un bâtiment qui soit très peu consommateur d'énergie. On a réussi à avoir une chaudière à granulés, par exemple, une centrale photovoltaïque sur le toit. Bon, on va pas encore autoconsommer, mais ça va peut-être venir un de ces jours.
Ouais.
Voilà, on a fait au mieux. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui est beaucoup plus novateur que le nôtre et qui est aussi une coopérative, c'est Chamarel. Ils sont à Vaux-en-Velin et leur bâtiment a 4 étages et il est bâti en paille.
Mmh. Village-vertical.org donc pour l'adresse avec cet exemple pionnier phare du village vertical de Villeurbanne. Merci Cécile.
Merci Philippe.
Dans une semaine, jeudi 14 décembre à 9h, un rendez-vous à nouveau du Café Contact de l'Emploi qui permet à des chercheurs ou chercheuses d'emploi de rencontrer directement autour d'un café des chefs d'entreprise, 100 postes à pourvoir de la part de 20 entreprises, Café Contact de l'Emploi le prochain. Donc jeudi 14 décembre à la Cité de Lille au nord de Strasbourg, au foyer des loisirs à 9h. Le site c'est cafécontactemploi.fr. Avant de rejoindre Nicolas Stoufflet, un petit mot pour vous dire que nous sommes preneurs d'informations en provenance de la Sarthe pour la fin de l'année, puis de l'Essonne, de la Marne, la Seine-et-Marne et du Finistère.